Vous souhaitez un bon Noël. Je ne vais pas vous revoir avant l'année 2016. Alors je vois que vous êtes tout souriant à cette annonce, donc ça vous fait plaisir d'avoir un petit peu de semaine de répit par rapport à moi. En tous les cas, j'ai toujours énormément de plaisir à être avec vous. Ensuite, j'aimerais m'adresser à nos deux sœurs qui ont officié là, et vous dire combien vous avez fait des progrès. Quand vous priez, quand vous présentez, alors je soupçonne une œuvre de Dieu dans votre vie, parce que ça fait des années que je vous connais, et là, je vous regardais, je vous écoutais avec beaucoup d'attention, et je me suis dit, c'est beau de voir l'œuvre de Dieu dans votre vie, dans vos vies, parce que vous avez plus d'aisance spirituelle, hein. Je parle pas de choses humaines, hein, d'aisance spirituelle, on sent qu'il y a une profondeur dans votre vie, alors ça fait vraiment plaisir. Vous les hommes, bah allez-y, engagez-vous aussi. Et puis donc, ça fait plaisir de voir l'œuvre de Dieu dans la vie de votre Église. Voilà, tout simplement. Comme vous vous en souvenez, nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux que le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges, au diable et évidemment à la mort, au chapitre 2. Et puis, on avait vu ce dimanche passé, supérieur au sacrificateur de l'Ancienne Alliance. Et là, aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux aborde un autre aspect, c'est que supérieur au souverain au sacrificateur parce qu'il est le souverain sacrificateur par excellence, mais en même temps, il est souverain sacrificateur et il est l'offrande. C'est-à-dire, il est le sacrifice, il renferme dans sa personne deux, entre autres choses, ces deux aspects particuliers. Il est le souverain sacrificateur parfait, selon l'ordre de Melchisédek, et il est lui-même l'offrande. Ce qui est tout à fait unique dans l'histoire des religions, et qui est véritablement la spécificité du christianisme. Du message biblique, hein, parce que même dans l'Ancien Testament, c'est annoncé, comme nous le verrons. Donc, c'est ce qui fait la particularité du message de la Bible, et il en découle cette certitude pour nous d'être sauvés, de lui appartenir, d'être un enfant de Dieu, comme nous allons voir. Alors, dans les versets 1 à 18, ça se divise en deux parties. Les versets 1 à 10. On distingue deux vérités fondamentales dans ces versets 1 à 10. D'abord, l'inefficacité des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et deuxièmement, quelque chose qui vous est connu, l'incarnation du Fils, donc notre Seigneur Jésus-Christ, et l'offrande volontaire de sa personne, de son corps. Mais c'est toute sa personne, hein, c'est pas simplement le corps. Mais il insiste sur le corps par rapport au problème de l'incarnation. Mais on voit bien, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Voici, j'ai dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Donc ça, c'est l'expression de la totalité de la personne qui s'offre. Pas simplement un corps qui s'offre, c'est l'être tout entier dans une soumission. Et une acceptation librement consentie, donc volontaire, d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est en cela que notre Seigneur Jésus-Christ est le sacrifice unique, parfait, unique, qui ne peut pas être renouvelé, parce que justement, il est unique et parfait. Et puis la deuxième partie, c'est que les versets 11 à 18... on voit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux achève son enseignement par la proclamation joyeuse de la position de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on appelle ça l'exaltation du Seigneur. Il est exalté dans les cieux, hein. Donc c'est sa position suprême de grand prêtre. Et en même temps, il développe la valeur immense de son œuvre, d'ailleurs de son sacrifice. Alors, comme je viens de vous le dire, Hébreux chapitre 10, verset 1 à 10, manifeste le caractère inutile des sacrifices anciens. J'avais noté l'inamité des sacrifices, mais ça veut dire caractère de ce qui est inutile. L'inamité des sacrifices anciens et l'efficacité de l'offrande volontaire du corps de Jésus-Christ. Au verset 1, il est dit « La loi ne possédant que l'ombre des choses à venir ». est à jamais incapable, malgré les sacrifices, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. C'est-à-dire tous ces Juifs qui venaient devant le temple, mais dans le désert, devant le tabernacle, avec leur animal sans défaut et sans tache pour le présenter au sacrificateur, tous ces hommes, au nom de leur famille, donc, quand ils en avaient une, ont fait ça pendant des siècles et des siècles et des siècles, mais quelque part, ça n'amenait pas la perfection. Et c'est pour ça qu'on peut dire la réitération incessante des sacrifices du culte lévitique dénonce leurs limites. C'est-à-dire le fait même d'être en permanence obligé d'offrir des sacrifices démontre les limites de ces sacrifices. Ceux qui, année après année, effectuaient ces gestes pieux démontraient leur incertitude autant que leur obéissance. Il n'avait aucune certitude en offrant un sacrifice, parce que, comprenez-moi, il avait la certitude que Dieu allait recevoir ce sacrifice et que leur péché allait être pardonné, mais il fallait recommencer, donc il y avait il n'était jamais parfait, quoi. Donc de là cette incertitude, et en même temps une obéissance, parce qu'ils y allaient régulièrement, ils obéissaient à Dieu, et c'est la caractéristique des gens religieux, ça. Ils sont obéissants dans l'incertitude. C'est-à-dire, ils sont sincères, c'est extraordinaire de voir des gens authentiquement religieux, ils sont authentiquement sincères, quelle que soit la religion à laquelle ils appartiennent, sont authentiquement sincères, et en même temps, ils sont perpétuellement dans l'incertitude, à la différence de nous, les chrétiens qui avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, et comme nous l'avons chanté, « Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu ». Il n'était donc jamais sûr d'être vraiment et définitivement purifié. Et des versets 5 à 7, il est dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors voici, j'ai dit, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Et là, quelque part, on aborde le sujet de Noël. C'est-à-dire que quand on va penser à la crèche ou on pense à Noël, à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on va contempler dans le nourrisson, cet enfant, là je vais prendre l'expression très catholique, l'enfant Jésus, on va contempler en réalité le grand souverain sacrificateur, le sauveur du monde, le fils unique du Dieu vivant. Pas simplement un enfant quelconque, mais véritablement le Sauveur et le Seigneur, le Créateur, s'enfermant dans les limites corporelles qui sont les nôtres. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Écriture sainte, l'Ancien Testament, est sollicitée pour établir que, dans le plan de Dieu, le moment était venu de repousser les sacrifices lévitiques, donc inopérants, et de mettre en œuvre un autre moyen. Pourquoi ? Parce que ce qui est placé là dans la bouche du Christ, cette déclaration « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande », se trouve dans le psaume 40, les versets 7 à 9, 9a, parce que c'est la première partie du verset 9, où on lit dans la traduction seconde du psaume 40, versets 7 à 9a, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi, donc c'est un passage prophétique, hein. Ça s'est accompli des siècles après, donc je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Et la citation du psaume 40, reprise en Hébreux chapitre 10, s'intéresse aux convictions et à l'esprit avec lesquels il aborde cette tâche. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans quel état d'esprit il aborde cette tâche ? Il aborde cette tâche dans l'état d'esprit suivant, et avec les convictions suivantes, faire la volonté de Dieu, son Père, voilà l'essentiel. Alors, ça a un écho pour nous. C'est que nous aussi, nous sommes appelés à avoir cet état d'esprit. C'est cet état d'esprit, ces convictions que le Seigneur veut développer par son Esprit Saint à l'aide de sa parole sainte, la Bible, veut développer en chacun d'entre nous. Cette conviction, cet état d'esprit, faire la volonté de Dieu, voilà l'essentiel. Dans nos études, dans notre famille, dans notre église, dans le voisinage, dans notre vie, au travail, là où nous sommes, faire la volonté de Dieu, c'est là l'essentiel. Mais le psaume esquisse les traits de l'étrange moyen. Alors étrange pour l'Ancien Testament, pour nous, on se dit c'est merveilleux, c'est formidable, Christ, le Fils de Dieu a pris un corps semblable au nôtre, mais pour un juif c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel. Vous imaginez Dieu qui se fait homme, si vous lisez les commentaires, les enseignements rabbiniques, vous verrez, c'est impensable que Dieu ait un fils. En cela, le prophète de l'islam a repris ces choses du judaïsme, pour développer dans l'islam, c'est impensable, ces deux religions affirment que c'est impensable que Dieu ait un fils, que Dieu prenne un corps semblable à un être humain, c'est impensable, c'est une hérésie, c'est un scandale. D'ailleurs, pour ça que la croix est appelée un scandale. Alors, ce psaume déjà esquisse les traits de l'étrange moyen choisi par Dieu pour cette mission de salut. Un corps sera donné au fils. Au Fils unique de Dieu. Il permettra donc la réalisation, ce corps, cette incarnation va permettre la réalisation d'une vocation bien particulière au sein du monde des hommes, et c'est une vocation programmée dans le rouleau du livre, c'est-à-dire dans l'Écriture, programmée dans la pensée de Dieu. Un jour, Dieu allait envoyer son Fils. Mais ça, nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous le savons, par l'étude de la parole et par notre relation intime avec le Sauveur. Mais si on se place dans le contexte d'un juif, il est nécessaire de lui rappeler ces choses. C'était inscrit dans l'Ancien Testament. Et on peut dire que seul le Christ est en mesure d'unir et de dominer les dualités. C'est-à-dire que seul le Christ, en tant qu'entièrement Dieu et entièrement homme, arrive à dominer quelque chose que nous n'arrivons pas à vivre, qui sont des dualités. Imparfaits, ne pouvons pas accéder à la perfection. Et pourtant, en Jésus-Christ, nous accédons à la perfection, comme il est dit dans la fin de ce passage. Donc, vous voyez, comment le Christ va réussir à unir et dominer les dualités, parce que lui, il est Dieu. Dieu fait homme. Au verset 8 et 9, il dit alors « Voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est-à-dire le Saint-Esprit dans le fond, il abolit ainsi, c'est un commentaire très court de cette citation. Il dit alors « Voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Et le commentaire du Saint-Esprit, c'est, au travers de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde ». C'est un des plus courts commentaires théologiques des Saintes Écritures, en l'occurrence dans ce verset. Le bref commentaire de la citation qu'on trouve dans ces deux versets a pour but de mettre en valeur le contraste sur lequel ils sont construits. D'un côté, le refus des sacrifices anciens dans leur diversité, puisqu'il y avait énormément de sacrifices à offrir. De l'autre, la légitimation d'un autre type de sacrifice fondé sur l'adhésion à une intention divine explicitée. C'est-à-dire Dieu voulait un sacrifice suprême, parfait, quand je dis suprême c'est dans le sens de parfait, et donc on trouve ces deux contrastes, hein. D'un côté le refus des sacrifices anciens, et de l'autre, du coup, la légitimation d'un type de sacrifice fondé sur une volonté librement consentie et sur un être parfait. Parce qu'il faut un être parfait pour pouvoir accomplir parfaitement la volonté de Dieu et satisfaire parfaitement et sa justice et son amour, bien entendu. En fait, c'est le remplacement d'une première disposition par une autre. Donc Dieu supprime le premier culte, donc le culte lévitique, pour établir le second. C'est-à-dire le culte, on va dire, évangélique, biblique du Nouveau Testament. Comme les paroles du psaume 40 sont mises dans la bouche du Fils, on peut dire qu'il annonce puis effectue lui-même ce changement de culte. en accord avec son Père. Dans le psaume 40, c'est Dieu le Père qui parle. Dans l'Épître aux Hébreux, ce texte est donné au Fils, puisque il dit en entrant dans le monde, il dit. Donc là, c'est le Fils qui parle. De là, l'identité de nature entre Dieu le Père et Dieu le Fils, la divinité. Le cœur même des nouvelles dispositions de la Nouvelle Alliance, c'est le cœur de la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que c'est? C'est l'incarnation débouchant sur une mort consentie, puis une résurrection, donc une glorification. Quand on vous demande, mais qu'est-ce que c'est que l'évangile? Ben, vous pouvez dire, c'est la bonne nouvelle de Dieu, pardonne nos péchés, mais on peut aussi y rajouter, ben, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, il est venu sur la terre, c'est Noël, le sens de Noël, qui est le début de cette fantastique histoire de l'incarnation, de Dieu faisant une intrusion physique, Dieu qui fait une intrusion physique dans le monde créé, je ne sais pas si vous... C'est extraordinaire. Donc c'est l'incarnation débouchant sur une mort consentie. Le Christ est venu, il est né pour mourir, et pas pour autre chose. Évidemment pour ressusciter et pour régner. Le verset 10, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est à partir de cette volonté du Père, au verset 9, il est dit, je suis venu pour faire ta volonté, donc c'est à partir de la volonté du Père, devenue celle du Fils, que nous sommes sanctifiés. Le moyen est une nouvelle fois proclamé par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Alors pourquoi l'offrande du corps de Jésus-Christ? Ben parce que, vous le savez, les gnostiques ont toujours dit, le Christ c'est un esprit, mais le corps c'est quelque chose de mauvais, donc ils séparaient l'esprit du Seigneur Jésus-Christ et son corps. Ce qui fait qu'en réalité, ils étaient en train de miner l'incarnation, qui elle seule nous permet d'accéder au salut. Qu'est-ce que font l'islam? Qu'est-ce que fait l'islam dans le Coran? L'islam dit, mais au moment de la crucifixion, c'est pas le Christ qui a été crucifié, c'est son sosie. Lui, le Christ, il est parti directement dans le ciel, et c'est lui qui va revenir établir la justice sur la terre. Quand vous lisez le Coran, c'est très intéressant, parce qu'ils ont pris des idées du judaïsme et du christianisme, ils ont fait tout un mélange, mais en réalité, eux aussi portent atteinte au sacrifice, puisque ils disent, mais non, le Christ, lui, n'est pas mort, c'est son sosie. Vous voyez un petit peu la perversité de l'esprit diabolique qui est derrière ces choses, derrière ces faux enseignements. C'est de miner la puissance de la croix, c'est de miner la puissance de l'incarnation, c'est de rejeter l'œuvre accomplie à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc refuser au Christ sa position de créateur, de Dieu, créateur, sauveur. En même temps, dans le grec, la conjugaison est au parfait. Ça signale que cette situation résulte d'un événement passé. C'est-à-dire le fait que nous sommes sanctifiés. C'est un événement passé. Donc c'est très important pour nous de savoir que nous sommes sanctifiés. Nous sommes saints, nous sommes mis à part. Et c'est un événement passé. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, jamais le salut n'est remis en cause dans aucune épître. C'est très important. C'est la sanctification, la marche du chrétien qui est remise en cause. Mais jamais le salut, parce que le salut repose sur un événement passé. Et dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos âmes, il faut bien dissocier les deux choses, parce que sinon on a un mal fou à vivre une vie chrétienne heureuse, épanouie, paisible, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez. Alors que faut-il mettre sous le terme de sanctification? Évidemment le pardon des péchés, la réception du Saint-Esprit, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Alors j'ai donné une espèce d'ordre chronologique, mais tout ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des opérations qui se sont opérées simultanément. Dieu nous a simultanément accordé tout ce que je vais vous dire. Dans les évangiles et dans le Nouveau Testament, on peut essayer de mettre un petit peu un ordre chronologique là-dedans, mais c'est pas le plus important. On s'est repenti sous l'action du Saint-Esprit, donc Dieu a pardonné nos péchés, et donc il nous a baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes donc nés de nouveau, nous avons reçu une nouvelle nature, la nature de Christ qui vit en nous, nous avons été justifiés et purifiés de nos péchés, nous avons reçu la certitude du salut, nous avons la vie éternelle, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous le sommes. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Premier épître de Jean. Nous sommes membres du corps de Christ et nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Et je pense qu'il y a encore d'autres choses. Mais voilà ce que la Bible entend par être sanctifié. Et ce verset 10 de l'épître aux Hébreux, du chapitre 10, va être éclairé par le verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc nous avons été amenés à la perfection pour toujours. Et c'est pour ça que il y a dans l'épître au chapitre 12, verset 14, cette injonction, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Alors on peut se poser la question, mais nous sommes sanctifiés, et voilà qu'au chapitre 12, verset 14, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et là, on va voir dans quelque temps la conjugaison utilisée dans le grec pour comprendre cette affirmation que nous sommes sanctifiés et cet appel à participer à une sanctification. Alors en Hébreux chapitre 10 verset 1 à 18, après le sacrifice, c'est la glorification, le triomphe et le plein salut des sanctifiés qui nous sont présentés. Donc les versets 11 et 12. Il est dit, « Et tandis que chaque prêtre se tient debout, lui par contre, après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de Dieu. Dans le ciel, un prêtre assis, sur terre ils sont debout, hein. Dans le ciel, un prêtre assis est la garantie d'une œuvre achevée et d'un sacrifice agréé et qui est placé en contraste saisissant avec l'activité incessante. En Hébreux 7, 27, jour après jour, les prêtres offrent des sacrifices, hein, de ces hommes qui, debout, en serviteurs qu'ils étaient, se dépensaient pour des rites, en définitive, inefficaces. C'est-à-dire qu'on voit que, sur la terre, les prêtres, les lévites, le souverain sacrificateur étaient sans cesse en train de participer à l'offrande des sacrifices, alors que dans le ciel, le Seigneur est assis. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a accompli est suffisant, pleinement suffisant. Et en même temps, le Seigneur exalté, donc glorifié, bien qu'assis, n'est pas inactif. Puisque dans l'ensemble de l'Épître aux Hébreux, il nous est dit au chapitre 1, verset 3, qu'il porte le monde. Hein, il soutient le monde par sa parole puissante. Il intercède pour les siens, chapitre 7, verset 25. Donc notre Seigneur n'est pas inactif. Et puis il nous prend en charge, chapitre 2, verset 16. Assurément, ce n'est pas envers les anges qu'il s'adresse, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Son pouvoir est sans réserve, car il a réduit à l'impuissance le grand adversaire, qui est donc le prince de la mort, comme nous l'avons vu au chapitre 2, verset 14. Verset 14 du chapitre 10, « Par une offrande unique, en effet, il a amené pour toujours à la perfection les sanctifiés. » Alors ce verset, il précise et prolonge à la fois le verset 10, qui proclamait une sanctification définitive. Alors, dans le verset 14, c'est l'emploi du participe présent qui est utilisé en grec. Et donc, on traduit ceux qui sont en voie d'être sanctifiés. Différent du participe parfait qu'on trouve au verset 10, du chapitre 10, où il est question que nous sommes dans la situation des sanctifiés. Donc, nous sommes à la fois sanctifiés et en même temps appelés à nous sanctifier, c'est-à-dire à faire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est dans le sens que le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Seigneur, je veux faire, ô Dieu, ta volonté. » Nous sommes donc, nous, étant sanctifiés, participant à la nature de Christ, appelés à avoir la même pensée, la même volonté, le même état d'esprit de dire, « Seigneur, tu m'as sauvé, je t'appartiens, tu m'as baptisé du Saint-Esprit, je suis sanctifié, je veux donc participer activement à cette vie nouvelle de sanctifié. » Et la vie nouvelle du sanctifié s'appelle la sanctification progressive. Vous le savez, 2 Corinthiens chapitre 15, marchons vers la fin du chapitre, marchons de progrès en progrès. Ça, c'est ce qui s'appelle la sanctification progressive. Donc nous sommes à la fois sauvés et naturellement invités à participer activement par la puissance du Saint-Esprit à cette vie nouvelle. De la même manière que le Christ, notre Seigneur, a dans un corps semblable au nôtre manifesté les perfections de Dieu, Dieu veut que dans notre corps nous partagions la sainteté de sa personne qui nous habite. C'est ça la sanctification. Et ça se vit tous les jours. Et ça s'appelle la plénitude du Saint-Esprit, tout simplement. Le verset 14 voit donc la sanctification comme un processus qui s'inscrit à l'intérieur de la position nouvelle de sainteté acquise pour le croyant. Ça va, c'est clair? J'aurais mieux fait de vous lire ça. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Ça, c'est la sanctification progressive. C'est l'accomplissement librement consenti par chacun d'entre nous en tant que chrétien de cet objectif suprême, faire accomplir par la grâce de Dieu, par la puissance de son Esprit, la volonté de Dieu notre Sauveur. Alors, par la reprise de Jérémie, chapitre 31, versets 33 à 34, la totale perfection du salut acquis est réaffirmée, comme vous le savez, j'ai oublié de lire ça, tiens. Voici, donc, Jérémie 31, 33, 34, c'est « Voici l'alliance que je ferai avec eux », c'est au verset 16 de notre chapitre 10. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, ça c'est le commentaire du Saint-Esprit, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » C'est pour ça que je vous disais, par la reprise de Jérémie chapitre 31 verset 33-34, la totale perfection du salut acquis est réaffirmée, ainsi que la solidité de son fondement scripturaire. C'est-à-dire, j'ai demandé à notre voisine qui vient faire les études bibliques mardi dernier, je lui ai dit, mais c'est plutôt ma femme qui a abordé le sujet, et elle lui a dit, mais où est-ce que tu en es avec Dieu? Et elle a répondu, je crois que je suis sauvé. Alors, on a été un petit peu plus profondément dans les choses, puis à un moment donné, je lui ai dit, alors, si quelqu'un te demande, est-ce que tu as la vie éternelle? Qu'est-ce que tu vas lui répondre après avoir lu quelques versets bibliques? Elle dit, ben je l'ai, je la possède, je suis sauvé. Alors, elle nous dit, la conversion c'est aussi simple que ça? Alors, on dit oui, c'est ça, t'es sauvé. Elle dit, maintenant tu vas apprendre à marcher, avoir une vie de disciple. Mais oui, t'appartiens à Dieu. Ah, elle était heureuse, puis nous aussi, hein. Je peux vous dire, on était heureux enfin de l'avoir au Seigneur. Donc l'antique prophétie de Jérémie chapitre 31, verset 33-34 est réalisée. On peut noter que le texte de Jérémie 31, attribué au chapitre 8, verset 8 au Seigneur, puisque c'est lui qui reprend ça, est mis ici au compte de l'Esprit-Saint. Vous voyez, il y a plein de textes qui sont donnés par Dieu le Père dans l'Ancien Testament, qui sont repris par Dieu le Fils et qui sont aussi appliqués à Dieu le Saint-Esprit. Et là, on voit l'unité des trois personnes. Donc, le message de l'Esprit-Saint est ici actuel, est si actuel que le Verbe est au présent. C'est pour ça qu'au chapitre 3, verset 7 de notre Épître aux Hébreux, il est dit « L'Esprit parle aujourd'hui, si vous entendez sa voix. » Et là, du coup, ça s'adresse à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, si nous avons entendu sa voix, si nous entendons sa voix, alors obéissons, livrons-nous, remettons-nous entre les mains du Seigneur pour qu'il fasse de nos vies ce qu'il désire faire. Pour la gloire de son Saint-Nom en Jésus-Christ. Amen.